Chapitre 24. Bobby voulait s'arrêter pour dîner. Didi ne voulait pas.
« Il faut que tu fasses plus attention à toi », protesta Bobby.
« Et toi, il faut que tu arrêtes d'être aux petits soins pour moi. Je n'ai jamais aimé ça et je n'aime toujours pas. »
« Non. »
« Pardon ?»
J'ai dit non. « Et tu ne pourras pas m'en empêcher. »
Didi se tourna sur son siège pour mieux le fusiller du regard.
« Tu es au courant que les femmes enceintes sont sous l'emprise de leurs hormones, donc je pourrais te tuer ici et maintenant, et pour peu qu'il y ait une seule mère de famille dans le jury, je serai acquittée. »
Bobby sourit.
« Ah, Annabelle disait la même chose.
Oh, pitié !»«
Tu es enceinte, » l'interrompit-il.
« Les hommes aiment être aux petits soins pour les femmes enceintes. Ça nous donne un rôle. Et secrètement, nous adorons aussi être aux petits soins pour les bébés. Tiens. » La première fois que tu viendras avec le nouveau-né pour le présenter à ton équipe, je parie que Phil aura tricoté des petits chaussons. Quant à Neil, j'imagine qu'il offrira au bébé son premier casque de vélo et des pansements Looney Tunes.
Didi le regarda avec de grands yeux. Jusqu'ici, elle n'avait pas pensé chaussons, pansements et présentation de l'enfant à ses collègues. Elle en était à s'habituer à l'idée de la grossesse, pas encore celle de la vie avec bébé.
Elle avait eu un message d'Alex.
Après l'arrestation, comment ça se passe sur les autres fronts?
Elle n'avait pas répondu.
Elle ne savait pas quoi dire. Certes, ils avaient arrêté Tessa Léonie, mais ils n'avaient pas retrouvé la petite Sophie. Et le soleil s'était couché pour la deuxième fois. Il s'était maintenant écoulé 36 heures depuis le déclenchement de l'alerte enlèvement, mais sans doute 2 jours entiers depuis la disparition. Et le plus probable était que l'alerte enlèvement ne servait à rien. Le plus probable était que Tessa Léonie avait supprimé toute sa famille, y compris Sophie. Didi ne travaillait plus sur une disparition. Elle enquêtait pour retrouver le cadavre d'une enfant assassinée. Elle n'était pas encore prête à y penser. Pas d'attaque pour répondre aux questions toujours discrètement perspicaces d'Alex. Et puis elle ne voyait pas comment faire la transition entre cette conversation et « Ah, au fait, je suis enceinte. Je ne te l'avais pas encore dit, mais Bobby Dodge est parfaitement au courant. » C'est une meurtrière présumée qui le lui a annoncé. Tout juste le genre de situation qui avait poussé Didi à se réfugier dans le travail. Parce que retrouver Sophie et faire condamner Tessa l'aiderait à se sentir mieux. Alors que parler avec Alex du nouvel ordre mondial ressemblerait à une chute interminable dans le terrier du lapin.
« Ce qu'il te faut, c'est un falafel, » lui dit Bobby.
« À tes souhaits. »
Annabelle adorait ça quand elle était enceinte. « C'est la viande, pas vrai? Tu ne supportes plus l'odeur de la viande. »
Didi hocha la tête.
« Les œufs, c'est pas le top non plus. »
D'où le régime méditerranéen avec ses plats végétariens divers et variés.
« Tu aimes les falafels, toi ?»
demanda Didi avec méfiance.
« Non, j'aime les Big Mac. Mais ce n'est sans doute pas ce qu'il te faut en ce moment. »
Didi confirma.
« Alors, c'est parti pour des falafels. »
Bobby connaissait une bonne adresse, une des préférées d'Annabelle apparemment. Bobby y entra pour commander, Didi resta en voiture pour éviter les odeurs de cuisine et écouter sa messagerie. Elle commença par rappeler Phil et lui demander de se repencher sur la situation financière de Brian Darby en cherchant particulièrement d'autres comptes et transactions, éventuellement sous le nom d'un proche ou sous un pseudonyme. Si Darby était un joueur compulsif, il devrait en voir des répercussions sur son compte en banque. Grosses rentrées et sorties d'argent, éventuellement retrait d'espèces aux distributeurs de Foxwoods, Mohegan Sun et autres casinos. Ensuite, elle voulut parler à Neil qui avait mené l'enquête sur le terrain de l'hôpital. Il s'était déjà renseigné sur les antécédents médicaux de Tessa. Maintenant, Didi voulait connaître ceux de Brian. Au cours des 12 derniers mois, avait-il été victime d'incidents, rotules cassées? Peut-être au ski, songea Didi. Ou disons, chute spectaculaire dans les escaliers? Intrigué, Neil répondit qu'il s'y mettait de suite. Le numéro spécial recevait moins d'appels de témoins déclarant avoir vu Sophie, mais plus d'appels concernant la Denali. Il y avait des breaks blancs à tous les coins de rue, en fin de compte, et la cellule d'enquête allait avoir besoin de renforts pour creuser toutes les pistes. Didi suggéra que l'équipe chargée des appels au numéro spécial passe tous ceux qui concernaient le véhicule à l'équipe de 3 hommes qui cherchaient à en reconstituer les dernières heures. Équipe qui, leur indiqua-t-elle, devait travailler sans répit, toutes les demandes d'heures supplémentaires seraient automatiquement accordées. Et s'ils avaient encore besoin de renforts, qu'ils embauchent d'autres enquêteurs. Déterminer quel avait été le dernier trajet de la Denali était clairement une priorité. Identifier sa destination du samedi après-midi les conduira à Sophie. L'idée déprima Aditi. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre. Pas chaud ce soir. Les passants marchaient d'un pas pressé, le col remonté jusque sur les oreilles, les mains gantées bien enfoncées dans les poches de leur manteau. Pas encore de neige, mais c'était dans l'air. Une nuit d'un froid glacial, au diapason de l'humeur de Didi. L'arrestation de Tessa Leoni ne lui procurait aucune satisfaction. Elle aurait bien voulu. Cette policière lui tapait sur le système. À la fois trop jeune et trop maîtresse d'elle-même. Trop jolie et trop vulnérable. Que des mauvais cocktails aux yeux de Didi. Tessa leur mentait. Sur son mari, sur sa fille, et si la théorie de Hamilton était correcte, sur les 250 000 dollars qui avaient disparu du compte en banque du syndicat. Tessa avait-elle volé cet argent? Pour préparer sa nouvelle vie? Voler un quart de million de dollars, se débarrasser de sa famille et partir vers le soleil couchant, jeune, belle et riche? Ou bien est-ce que cette histoire les ramenait au mari? Est-ce qu'il avait accumulé plus de dettes de jeu qu'aucun homme honnête ne pourrait jamais rembourser? Peut-être que l'idée de détourner les fonds de la police venait de lui et qu'elle avait été contrainte de suivre, de soutenir son mari. Sauf que lorsqu'elle avait été en possession de l'argent, quand elle avait compris l'étendue du risque qu'elle avait pris, quand l'idée d'une totale liberté avait miroité devant ses yeux, pourquoi renoncer à ses biens mal acquis quand on pouvait les garder pour soi? Le plan n'était pas trop mauvais d'ailleurs. Faire passer son mari pour un assassin d'enfants et un mari violent. Ensuite, se débarrasser de lui dans un geste de légitime défense. Quand l'affaire se serait tassée, elle aurait pu tranquillement démissionner de la police et partir dans un autre état pour y jouer le rôle de la veuve qui vient d'hériter de 250 000 dollars en assurance vie. Ce plan aurait marché, pensa Didi, si le légiste n'avait pas remarqué les dommages cellulaires provoqués par la congélation. C'était peut-être pour ça que Tessa avait pressé Ben de rendre le corps de son mari, pour essayer d'éviter l'autopsie, ou, si elle avait lieu, pour qu'elle soit bâclée. Ben aurait expédié l'opération et hop, ni vu ni connu. Bien joué, Ben, pensa Didi avant de se rendre compte qu'elle était sur les rotules. Elle n'avait rien mangé de la journée, pas beaucoup dormi la nuit dernière. Son corps la lâchait. Il lui fallait une sieste. Il fallait qu'elle appelle Alex. Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle allait lui dire? La portière s'ouvrit, Bobby monta en voiture. Il portait un sac en papier Kraft dont s'échappaient toutes sortes d'odeurs bizarres. Didi les huma, et pour une fois son estomac ne se révolta pas. Elle prit une grande inspiration et eut brusquement une faim de loup. « Falafel !» réclama-t-elle. Bobby lui tapota la main en piochant déjà dans le sac. Alors, qui disait que les hommes ne devraient pas être aux petits soins? Envoie, envoie, envoie! Moi aussi je t'aime, Didi, moi aussi. Ils mangèrent. Trop bon. De l'énergie, des forces. Quand ils eurent fini, Didi s'essuya sagement la bouche, se nettoya les mains et remit les déchets dans le sac en papier Kraft. J'ai un plan.
Est-ce qu'il suppose que je rentre auprès de ma femme et de mon bébé?
Non. Il suppose que nous allions chez l'agent Lyons et que nous l'interrogions devant sa femme et ses enfants. Ça marche. Elle lui tapota la main. Moi aussi je t'aime, Bobby. Moi aussi.
Lyons vivait dans un modeste pavillon des années 50 à quelques pâtés de maison de chez Brian Darby. Depuis la rue, la maison semblait datée mais bien entretenue. À l'avant, un petit jardin actuellement encombré d'une collection de pelles à neige en plastique et de luges profilées. Les restes d'un bonhomme de neige et de ce qui ressemblait à une forteresse s'élevaient au bord de l'allée où la voiture de Lyons s'était garée en sentinelle. Bobby dut faire le tour du pâté de maison plusieurs fois pour trouver une place. Aucune ne se libérant, il finit par s'arrêter de manière illégale derrière le véhicule de Lyons. Quel intérêt d'être flic si on ne pouvait pas de temps à autre prendre quelques libertés. Le temps que Didi et Bobby descendent de voiture, Lyons était sur le pas de sa porte. Jean délavé, épaisse chemise à carreaux, le solide gaillard les accueillit d'un air revêche.
« Quoi ?»
leur lança-t-il.
« Nous avons quelques questions, » dit Didi.
« Pas chez moi, impossible. »
Didi resta en retrait,
laissa Bobby prendre la direction. C'était un collègue de Lyons, et puis, il était meilleur dans le rôle du bon flic.
Désolé de vous envahir, dit-il immédiatement apaisant. On était chez les Darby, mentit-il. On a pensé à 2-3 trucs et comme vous étiez à 2 pas...
Je ne rapporte pas de travail chez moi.
Le visage sanguin de Lyons était encore circonspect, mais plus aussi hostile.
J'ai 3 enfants. Pas la peine qu'ils entendent parler de Sophie. Ils sont déjà bien assez effrayés comme ça.
Ils sont au courant de la disparition ? Intervint Didi. Il lui lança un regard sévère.
Ils en ont entendu parler à la radio pendant que leur mère les conduisait à l'école. L'alerte enlèvement, on ne peut pas y échapper. C'est le principe, j'imagine, dit-il en haussant ses épaules robustes.
Mais ils connaissent Sophie. Ils ne comprennent pas ce qui a pu lui arriver, ni pourquoi leur super flic de père ne l'a pas encore ramenée chez elle, conclut-il d'une voix plus cassante.
Alors nous en sommes tous au même point, répondit Bobby. Didi et lui se trouvaient maintenant sur le perron.
Nous voulons retrouver Sophie et la ramener chez elle.
Les épaules de Lyons se détendirent. Il semblait enfin rendre les armes. Au bout de quelques secondes, il ouvrit la porte et leur fit signe d'entrer. Ils se retrouvèrent dans un petit vestiaire, les murs lambrissés disparaissaient derrière les manteaux, le sol en céramique sous les chaussures. La maison était petite et il ne fallut qu'une minute à Didi pour comprendre qui y régnait en maître. 3 petits garçons âgés de 5 à 9 ans se précipitèrent dans la pièce encombrée pour accueillir les visiteurs, parlant tous en même temps avec excitation jusqu'à ce que leur mère, une jolie femme d'une 30aine d'années avec des boucles brunes qui lui tombaient sur les épaules, les retrouve exaspérés.
« Au lit !» dit-elle. « Dans vos chambres, je ne veux plus vous voir avant que vous vous soyez brossé les dents et mis en pyjama !»
Les 3 garçons la regardèrent, ne bougèrent pas d'un pouce.
« Le dernier en haut des escaliers est un œuf pourri !»
hurla soudain le plus âgé, et tous partirent comme des fusées en tombant les uns sur les autres dans leur hâte d'atteindre les escaliers le premier. Leur mère soupira. Shane secoua la tête.
« Je vous présente ma femme, Tina. »
Tina leur serra la main avec un sourire poli, mais Didi devina la tension dans les fines rides qui plissaient les coins de sa bouche, dans le regard qu'elle lança instinctivement à son mari, comme pour qu'il la rassure.
« Sophie ? » demanda-t-elle à voix basse.
Le nom lui resta dans la gorge.
« Pas de nouvelles, »
dit doucement Shane avant de poser les mains sur les épaules de sa femme, dans une attitude que Didi trouva réellement touchante.
« J'ai un peu de travail là, d'accord ? Je sais que j'avais dit que je coucherais les garçons. »«
Ce n'est pas grave, » répondit machinalement Tina.
« On sera dans le salon. »
Tina hocha de nouveau la tête. Didi sentit son regard sur eux lorsqu'ils suivirent Shane et passèrent dans la cuisine. Elle trouvait encore l'air inquiet à Tina. La cuisine donnait sur un petit salon. On aurait dit une ancienne véranda que Lyon serait fermée en posant des fenêtres et en installant un petit poêle à gaz pour le chauffage. La décoration était résolument masculine. Télé, grand écran, 2 énormes fauteuils relax marrons et des monceaux de trophées sportifs. L'antre de monsieur, en conclut Didi. Où le policier stressé pouvait se réfugier après une rude journée de travail. Elle se demanda si l'épouse avait de son côté un atelier de travaux manuels ou une salle de bain avec jacuzzi, parce qu'elle aurait parié que la vie avec 3 garçons était 100 fois plus éreintante que 8 heures de patrouille. La pièce n'offrait pas de siège pour 3 personnes, sauf si l'on comptait les pouf-poires empilés dans un coin, alors ils restèrent debout.
« Chouette maison !» dit Bobby en reprenant ses habits de bon flic.
On l'a acheté pour l'emplacement. Vous ne pouvez pas le voir à cette heure-là, mais à l'arrière, le jardin donne sur un parc beaucoup d'espace vert. Idéal pour manger dehors, indispensable avec 3 garçons.
C'est vrai, dit Didi, vous êtes connu pour vos barbecues. C'est comme ça que Tessa et Brian se sont rencontrés.
Lyon s'acquiesça, ne dit rien. Il avait croisé les bras sur la poitrine dans une posture défensive, se dit Didi. À moins que ce ne soit une posture agressive, vu la manière dont elle mettait en valeur les muscles de ses épaules et de son torse.
« Nous avons eu une conversation avec le lieutenant-colonel Hamilton, » indiqua Didi.
Était-ce son imagination ou Lyon se venait-il de se redire ?
« Il nous a parlé de plusieurs sorties que vous avez organisées, vous savez, des sorties entre potes pour un match des Red Sox ou à Foxwoods. »
Lyon hocha la tête.
« On dirait que Brian Darby vous accompagnait souvent. »
quand il était dans le coin, dit Lyons avec un autre haussement d'épaule évasif.
Parlez-nous de Foxwoods.
Lyons regarda Didi, puis se retourna vers Bobby. Et si vous me posiez directement la question?
D'accord.
Est-ce qu'à votre connaissance, Brian Darby avait un problème avec les jeux d'argent?
À ma connaissance, l'agent poussa un soupir, décroisa les bras, les secoua.
Et merde.
Didi prit ça pour un oui. C'était grave?
Je ne sais pas. Il refusait de m'en parler. Il savait que je désapprouvais, mais Tessa m'a appelé, il y a environ 6 mois. Brian était en mer, la baignoire avait une fuite. Je lui ai donné le nom d'un plombier et elle l'a appelé. Il a fallu changer quelques tuyaux, remplacer un peu de placo. L'un dans l'autre, je pense que la facture devait bien se monter à 800 ou 900 $. Sauf que, quand elle a voulu les retirer de leur livret d'épargne, l'argent n'y était plus.
Il n'y était plus ? Répéta Didi.
D'après Tessa, il aurait dû y avoir 30 000 $ sur le livret. Mais ce n'était pas le cas. J'ai fini par lui prêter de quoi régler l'entrepreneur et quand Brian est rentré,
que s'est-il passé ?
Nous l'avons mis devant les faits, ensemble. Tessa voulait que je sois là. Elle disait que si elle était toute seule, elle aurait l'air d'une mégère. Mais que si nous étions là, tous les deux, sa femme et son meilleur ami, Brian serait obligé de nous écouter.
Une intervention pour dépendance au jeu, donc, dit Bobby. Est-ce que ça a marché?
Si ça a marché,
répondit Lyons avec un rire jaune.
Merde! Non seulement Brian a refusé d'admettre qu'il avait un problème, mais il nous a carrément accusés d'avoir une liaison. Nous étions ligués contre lui. Le monde entier lui en voulait. C'est fou! On croit connaître un mec. Combien de temps qu'on était amis? Et du jour au lendemain, il part en vrille. Il préférait croire que son meilleur ami couchait avec sa femme plutôt que d'admettre qu'il était dépendant au jeu et que liquider les économies de toute une vie pour rembourser des usuriers n'était pas une solution.
Il avait emprunté à des usuriers ? Reprit tout de suite Didi.
Lyons lui lança un regard. Pas d'après lui. Il nous a dit qu'il avait pris l'argent du livret pour rembourser le crédit sur la Denali. Alors pendant qu'on y était, Tessa a décroché son téléphone avec un calme olympien. Et elle a appelé leur banque. On tombe toujours sur ces boîtes vocales maintenant, mais ça n'a pas raté. Il devait toujours 34 000 $ de crédit voiture. À ce moment-là, il s'est mis à hurler que ça crevait les yeux qu'on couchait ensemble. Allez comprendre.
Qu'a fait Tessa ?
Elle l'a imploré, supplié de se faire aider avant de tomber trop bas. Il a refusé. Finalement, elle a dit que s'il n'avait pas de problème, il devrait facilement accepter de ne plus jouer. Plus du tout. Il ne mettrait plus les pieds à Foxwoods, Mohegan Sun, nulle part. Il a accepté, après lui avoir fait promettre de ne plus jamais me voir.
Didi, le sourcil haussé, le regarda. Il avait vraiment l'air persuadé que Tessa et vous étiez trop proches.
Les gens dépendants mettent leurs problèmes sur le dos de la terre entière, répondit posément Lyons. Demandez à ma femme. Je lui ai tout raconté, et elle peut se porter garante de mon emploi du temps à la fois quand Brian était chez lui et quand il était parti. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre.
Vraiment? Alors, pourquoi ne pas nous avoir raconté ça plus tôt? Au lieu de quoi, je me souviens de votre petit discours, soi-disant, vous ne vous mêliez pas trop de la vie de Brian et Tessa. Et boum, 24 heures plus tard, vous êtes leur conseiller conjugal personnel.
Le sang monta au visage de Lyons. Il serrait les poings. Didi baissa les yeux et...
Salopard. Elle lui attrapa la main droite pour la mettre sous la lumière. Immédiatement, Lyons leva la gauche comme pour la repousser et se retrouva instantanément avec un Sig Sauer sur la tempe.
« Pose la main sur elle et je te tue », dit Bobby.
Les deux hommes respiraient péniblement, Didi en sandwich entre eux. Lyons pesait bien 25 kilos de plus que Bobby. Il était plus puissant et en tant que patrouilleur plus expérimenté en matière de combat de rue. Face à un autre enquêteur, il aurait peut-être eu envie de tenter quelque chose, de le défier de mettre sa menace à exécution. Mais Bobby avait déjà gagné ses galons sur le terrain. Une balle, un mort. Le genre de choses dont ses collègues étaient au courant.
Lyons se détendit et ne réagit pas lorsque Didi exposa son poing meurtri à la lumière du plafonnier.
Les articulations de sa main droite étaient violettes et enflées, la peau écorchée en plusieurs endroits.
Alors que Bobby rengainait lentement son arme, le regard de Didi tomba sur les chaussures à bout métallique de Lyons. Leur extrémité arrondie. L'échymose sur la hanche de Tessa que son avocat refusait de leur laisser examiner.
« Salopard !» répéta Didi. « Vous l'avez frappé. C'est vous qui avez tabassé Tessa Leoni !»«
Il fallait bien !»
répondit Lyons dans un souffle.
« Pourquoi ?»«
Parce qu'elle me suppliait de le faire. » Dans la nouvelle version de Lyons, plus crédible, Tessa l'avait appelée, hystérique, le dimanche matin à 9h. Sophie avait disparu, Brian était mort, tout était l'œuvre d'un mystérieux individu. Elle avait besoin d'aide. Elle voulait que Lyons vienne seule, tout de suite. Lyons avait littéralement couru chez elle parce que sa voiture de patrouille aurait été trop voyante. À son arrivée, il avait découvert Brian mort dans la cuisine, et Tessa, toujours en tenue, en larmes, à côté du corps. Elle lui avait raconté une histoire à dormir debout. Elle était rentrée de sa patrouille, avait posé son ceinturon sur la table de la cuisine et était montée à l'étage pour jeter un œil à Sophie. Personne dans la chambre. Elle commençait à s'inquiéter quand elle avait entendu un bruit dans la cuisine. Elle était redescendue en courant et avait trouvé un homme en trench coat noir qui menaçait Brian avec un pistolet. L'homme lui avait dit qu'il avait enlevé Sophie. La seule manière de la récupérer était de lui obéir. Ensuite, il avait abattu Brian de 3 balles dans la poitrine avec le pistolet de Tessa, et il était parti.
« Vous avez cru à cette histoire ?» demanda Didi abasourdi.
Ils étaient maintenant assis sur les poufs. La réunion aurait presque eu l'air convivial si Bobby n'avait pas eu son six-hour sur les genoux.
« Pas au début, » reconnut Lyons. « D'ailleurs, Tessa a joué là-dessus. Si je ne croyais pas à son histoire, qui la croirait ?»«
Vous pensez que l'homme en noir était un encaisseur envoyé par un des créanciers de Brian ?» demanda Bobby d'un air soucieux. Lyons soupira, regarda Bobby.
« Brian s'était musclé, » dit-il tout d'un coup. « Vous m'avez demandé hier pourquoi Brian avait fait de la gonflette. »
Bobby confirma.
Brian jouait depuis 1 an. Au bout de 3 mois, il y avait eu une première petite crise. Son ardoise était un peu trop montée, il s'était fait malmener par des gros bras du casino jusqu'à ce qu'il présente un plan de remboursement. La semaine suivante, il s'était inscrit à la salle de sport. Je crois que se muscler, c'était son plan de défense. Et disons que, même après la discussion que nous avons eue avec lui, il n'a pas arrêté la musculation.
Il continuait à jouer. Conclut Bobby.
J'imagine. Donc il a pu contracter d'autres dettes que le porte-flingue est venu réclamer.
Didi ne comprenait pas. Mais il a tué Brian. Aux dernières nouvelles, tuer son débiteur n'est pas le meilleur moyen de rentrer dans ses fonds.
Je pense que Brian avait dépassé le point de non-retour. Il s'était fait des ennemis dangereux. Il ne voulait pas son argent, il voulait le voir mort. Mais il était marié à une policière. Ce genre de meurtre peut attirer une attention indésirable. Alors, ils ont imaginé un scénario dans lequel Tessa elle-même devenait la suspecte. Comme ça, ils détournaient les regards et l'affaire était dans le sac.
« Brian fait des bêtises », répéta lentement Didi. « Brian est tué. Sophie est kidnappée pour que Tessa file doux. »
« Voilà. »
« C'est ce que Tessa vous a raconté. »
« Je vous ai expliqué, »
Didi l'arrêta d'un geste de la main. Elle connaissait l'histoire, seulement elle n'y croyait pas. Et le fait qu'elle vienne d'un collègue qui leur avait déjà menti n'arrangeait rien. « Donc, » résuma Didi, « Tessa panique, son mari a été tué avec son arme, sa fille a été kidnappée et son seul espoir de la revoir vivante est de plaider coupable du meurtre de son mari. »«
Exactement, »
confirma Lyons avec enthousiasme. « Tessa concocte un stratagème. » Vous allez lui casser la figure, ensuite elle prétendra que c'était Brian et qu'elle l'a tué pour se défendre. Comme ça, elle pourra s'accuser du meurtre, conformément aux conditions posées par les ravisseurs de sa fille, mais sans aller en prison. De fait, cette partie de l'histoire présentait une certaine logique aux yeux de Didi. Après ce qu'elle avait déjà vécu, Tessa Leoni avait joué sur ses atouts. Pas bête. Mais Bobby avait une question pour Lyons.
« Seulement, vous lui avez vraiment... Mais alors,
vraiment démoli la figure.
Pourquoi ?
L'agent rougit, regarda son poing contusionné.
Je n'arrivais pas à la frapper,
dit-il d'une petite voix. Alors, comment vous expliquez la pommette fracturée ? Demanda Didi.
C'est une femme. Je ne frappe pas les femmes. Et elle le savait. Alors elle a... À l'école de police, il fallait qu'on se donne des coups. Ça faisait partie de la formation à l'autodéfense, et les gars costauds comme moi avaient du mal. Quand on veut entrer dans la police, c'est parce qu'on se fait une certaine idée de ce qui est correct ou non. On ne frappe pas une femme, on ne s'attaque pas au plus petit de la bande.
Il lança un regard à Bobby.
Sauf à l'école de police où brusquement, il fallait le faire.
Bobby hocha la tête comme s'il comprenait.
Alors on s'envoyait des insultes à la figure, vous voyez ? On se provoquait parce qu'il fallait que les costauds frappent sérieusement pour que les plus faibles apprennent réellement à se défendre.
Bobby hocha de nouveau la tête.
Disons simplement que... Tessa était très forte pour provoquer. Elle disait qu'il fallait que ce soit convaincant. Invoquer des violences conjugales ferait reposer la charge de la preuve sur elle et il fallait que je cogne dur. Il fallait que je lui fasse... peur. Alors elle a commencé à me chauffer... à me narguer encore, et quand elle a eu fini... Merde,
soupira Lyons, les yeux perdus vers quelque chose qu'il était seul à voir.
J'étais dans un état second. Je voulais vraiment qu'elle meure.
Mais vous vous êtes retenu, constata Bobby.
Oui,
dit Lyons en se redressant. Toutes mes félicitations, dit Didi, et le policier s'empourpra à nouveau.
« Vous avez fait ça dimanche matin ?» demanda Bobby.
« À 9h. Vous trouverez la trace de son appel sur mon portable. J'y suis allé en courant, nous avons fait ce que nous avions à faire. Je ne sais pas. Il devait être 10h30. Je suis rentré chez moi. Elle a fait la demande d'intervention et vous connaissez la suite. D'autres agents sont arrivés, le lieutenant-colonel. Tout ça, c'est vrai. » Je crois que Tessa et moi, nous espérions tous les deux que l'alerte enlèvement pourrait dénouer la situation. Tout l'État cherchait Sophie. Brian était mort, Tessa arrêtée. Donc l'homme pouvait libérer Sophie, non ? La laisser à un arrêt de bus ou quoi ? Tessa avait fait ce qu'on lui avait demandé. Sophie devait revenir saine et sauve.
Lyons avait l'air un peu à bout de ressources. Didi ne l'en blâmait pas. Cette histoire n'avait ni queue ni tête et elle devinait que les heures passant, Lyons devait aussi s'en rendre compte. Et Lyons, dit-elle, si vous êtes allé chez Tessa le dimanche matin, comment ça se fait que le corps de Brian ait été congelé avant ?
Pardon ?
Le corps de Brian. Le légiste a déterminé qu'il avait été tué avant dimanche matin et conservé dans la glace.
J'ai entendu le procureur, oh oui, certaines remarques.
Lyons ne termina pas sa phrase et les regarda d'un œil éteint.
Je ne comprends pas.
Elle vous a manipulé ?
Non.
Aucun mystérieux individu n'est venu chez Tessa dimanche matin, Shane. En fait, Brian a très probablement été tué vendredi soir ou samedi matin. Quant à Sophie ?
Le grand gaillard ferma les yeux, la gorge nouée.
Mais elle disait... Pour Sophie, nous faisions ça. Il fallait que je la frappe pour sauver Sophie.
« Savez-vous où est Sophie ?» demanda Bobby avec tact. « Avez-vous la moindre idée de l'endroit où Tessa a pu l'emmener ?» Lyon secoua la tête.
« Non. Elle n'aurait pas fait de mal à Sophie, je ne comprends pas. Jamais Tessa n'aurait fait de mal à Sophie. Elle l'aime, c'est tout simplement... impossible. »
Didi le regarda avec gravité. « Dans ce cas, vous êtes encore plus bête qu'on ne pensait. » Sophie a disparu et comme vous êtes complice d'un meurtre, j'ai bien l'impression que Tessa Léonie s'est fichue de vous dans les grandes largeurs.